Bienvenue à cette édition spéciale de Compte Complet, en raison évidemment de la tenue des éliminatoires. La deuxième saison, la vraie selon les amateurs de baseball, l'analyserons en compagnie de Marc Griffin. Marc, avant de se lancer dans le bain, là, puis dans l'analyse des quatre séries qui vont s'amorcer ce vendredi, on va parler du format. C'est la première fois qu'on a des deux de trois. Puis, en fait, ce n'est pas la première fois. En 2020, on en a eu, mais là, on semble être embarqué définitivement là, dans ce format pour les années à venir. La dynamique est différente même d'un 3 de 5. On sait que bon, ce n'est pas le match ultime. Toi, tu préfères ça.
Ben, c'est-à-dire, je préfère ça au match ultime. Le match ultime, écoute, c'était excitant, là, on s'en rappelle, on en a couvert plusieurs, Alain, mais ça reste que tu fais les séries, 162 matchs, tu es éliminé après un match. Un match, si tu as le bon lanceur partant cette journée-là, ça peut faire la différence. C'était correct, mais 2 de 3 représente un petit peu plus, selon moi, la saison. Premièrement, on joue des séries de 3 matchs pratiquement tout au long de la saison. Ça va te prendre au moins deux bons partants. Donc, déjà, on va chercher un peu plus de profondeur. Si tu utilises ton releveur numéro 1 dans le premier match pendant, je ne sais pas, moi, une vingtaine, 25, 30 lancés parce que tu veux gagner ce premier match-là, peut-être pas disponible le deuxième. Donc, tu vois que ça représente un petit peu plus le baseball. Je ne dis pas que je préférais un 3 de 5. En fait, plus la série est longue, plus on va tester la profondeur d'une équipe. Mais étant donné qu'il y a un nombre plus élevé d'équipes, je trouve que c'est correct, moi, d'aller avec une première série de 2 de 3. Surtout qu'il y a un bel avantage aux équipes qui vont jouer à domicile. Bien, premièrement, toute la série va se dérouler à domicile. Mais donc, on récompense les bonnes équipes qui ont connu donc des saisons intéressantes sur une longue saison de 162 matchs.
Oui, bien d'accord avec ce dernier aspect, Marc. Et j'ajouterais le fait qu'on joue 3 matchs en 3 jours. Ça aussi, ça n'arrive pas souvent pendant les séries. En fait, ça n'arrive que dans les 4 de 7, dans des matchs 3, 4 et 5. Tout de suite, on va rentrer dans le bain, Marc. La série qui intéresse le plus les amateurs, c'est une série qu'on va présenter. Enfin, on présente toutes les séries de la Ligue américaine. Les Blue Jays de Toronto contre les Mariners de Seattle. Je te laisse aller, Marc, sur l'analyse des forces et des faiblesses là, entre tes deux équipes là, en vue de cette série.
Ben, écoute, Alain, on peut avoir une discussion certes là-dessus, mais regarde, moi, il n'y a pas de cachette. Les Blue Jays, il faut frapper. C'est la meilleure équipe de la Ligue américaine au bâton. Si on regarde la moyenne, le MPP, le MPP plus, donc c'est une équipe qui carbure à l'attaque. Il va falloir marquer des points. Le grand défi, c'est que Seattle arrive avec tout un personnel de lanceurs, autant partants que releveurs. Alors, c'est sûr que si tu analyses chacune des positions, je pense que l'attaque des Blue Jays est meilleure. Dans le cas des Mariners, ça soutient des buts sur balle, ça frappe des circuits. Je peux résumer ça pas mal comme ça. C'est pas une bonne moyenne au bâton, mais on est capable de générer des points. Donc, ça va prendre une certaine discipline des lanceurs des Jays pour éviter, but sur balle et longue balle. C'est à peu près là, un résumé très, très bref, mais ça reste que c'est comme ça. Au niveau des partants, c'est sûr qu'il y a un avantage au niveau des Mariners de Seattle. Par contre, je regarde Robbie Ray, sa moyenne de points mérités à l'étranger. Donc, c'est moins, c'est pas le même lanceur lorsqu'il joue, qu'il ne joue pas à Seattle. Là, tu vas me dire qu'il était quand même habitué de jouer à Toronto parce qu'il était là depuis une couple d'années, mais ça reste que c'est peut-être l'élément là où que les Blue Jays. Écoute, est-ce que Manoah peut rivaliser avec Castillo dans le premier match? Manoah a connu un mois de septembre extraordinaire. Castillo, un peu moins. Est-ce qu'on va pouvoir profiter de ça du côté des Blue Jays? C'est sûr que il faut que tu gagnes le match numéro 1 si t'es les Blue Jays de Toronto, parce que Manoah est probablement celui qui est le plus constant et dominant comme lanceur partant. Après ça, Alain, j'aimerais ça qu'on en discute. Qu'est-ce qu'on fait? OK, qu'est-ce qu'on fait si les Jays gagnent le premier match? Qui on place comme partant numéro 2? Gausman a été très ordinaire à Toronto cette année, une saison correcte en général, mais beaucoup plus dominant à l'étranger, donc à voir. Stripling était très constant depuis qu'on l'a inséré dans la rotation. Et Berrios, c'est tout le contraire, ça a été de l'inconstance tout au long de la saison. On ne sait pas lequel qui va se présenter. Alors, je me dis, Gausman, rappelle-toi, petit problème à un doigt. Si on lui donne une journée ou deux de plus, est-ce que ça peut l'aider à avoir évidemment, sa fameuse balle fronde. Il y a un paquet de contextes là, autour de cette série-là qui va être déterminant à la suite du premier match.
Oui, écoute, Marc, tu as analysé, je pense, de façon brillante la différence entre tes deux équipes. Moi, ce que j'ai pas aimé des Blue Jays de Toronto cette année, c'est le manque de constance. Puis je veux pas me fier à je sais qu'on a frappé dans la dernière semaine contre. Regarde, les Red Sox de Boston sans armes, puis je veux vraiment pas me fier sur cette série-là, ou même celle contre les Orioles de Baltimore. Les Orioles n'étaient plus là. On écoulait la saison. Donc, je veux vraiment, à mes yeux, ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine, là, je repousse ça du revers de la main, là, les matchs qui n'avaient pas beaucoup d'importance. Écoute, à mes yeux, tu as parlé du personnel de lanceurs. Écoute, c'est un avantage net, à mon sens, pour les Mariners de Seattle. C'est vrai que Castillo, ça n'a pas été une bonne fin de saison pour lui. Son dernier départ correct contre les Aces d'Oakland. Il n'affrontera pas les Aces d'Oakland là, présentement. Mais je vais quand même me mouiller, Marc. Il faut se mouiller pour les prédictions. Puis je pense que le manque de constance des Blue Jays va peut-être paraître dans cette série-là. On n'a pas bien joué contre Seattle cette année. Je pense que ça va paraître. Et malheureusement, ben, j'aimerais ça que les Blue Jays se rendent plus loin. Je pense que les Mariners vont les battre. Ils ont des éléments là, pour battre Toronto. Winker était placé sur la liste des joueurs blessés. Marc, il n'a pas été un facteur cette année à l'attaque pour les Mariners de Seattle. Donc, moi, je ne m'attends pas que ce soit une grosse perte pour les Mariners. Mais, Rodriguez revient. Évidemment, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas où il est exactement. Mais je ne m'attends pas à beaucoup de points, moi, de part et d'autre dans cette série-là. Si je regarde les deux partants, moi, je m'attends à Castillo et je m'attends à ce que Gilbert soit là, peu importe que les Mariners gagnent ou perdent dans le deuxième match. C'est différent pour les Blue Jays, mais pour les Mariners, moi, je m'attends à ce que ces deux gars-là soient là pour les deux premiers matchs. Et j'aime beaucoup Gilbert avec Seattle. Je pense que c'est un avantage net. Malheureusement, pour les Blue Jays, ils ont peut-être gagné leur dernier match.
Bon, écoute, Alain, je te relance en disant que les Mariners n'ont pas prouvé beaucoup de constance non plus. Ils ont été très inconstants en saison. Donc, ça, je pense que ça. Il n'y a pas un élément, selon moi, là-dessus qui va être déterminant. Par contre, si tu analyses aussi la défense, net avantage du côté de Seattle, et non seulement en termes d'erreurs, là, mais le nombre d'erreurs, c'est une chose, mais l'efficacité défensive aussi. Seattle a été une bien meilleure équipe que les Blue Jays. Comparaison des joueurs d'arrêt-court, dans le cas de Bichette et Crawford, c'est seulement 14 erreurs. Donc, dans le cas de Bichette, c'est bien au-delà d'une vingtaine d'erreurs. Mais Chapman du côté gauche, on sait que les Blue Jays sont capables de bien jouer en défense. Alors, c'est ça une série 2-2-3, c'est que je pense qu'il ne faut pas trop l'analyser, dans le sens qu'il y a des éléments qui... tu as raison de mentionner qu'il pourrait y avoir une domination des lanceurs, ça pourrait être évidemment une série qui ne se marque pas une tonne de points, mais s'il y en a des points... Ouais. C'est là que ça va être à l'avantage des Blue Jays de Toronto. Les deux releveurs numéro un, je pense, sont capables de faire leur travail. C'est avant ça qui peut être déterminant. Donc, la sortie des partants, là, est-ce que le partant il va 5 manches ou le partant va en lancer 7? Il y a une énorme différence parce que qui va lancer la 6 ou la 7e si le partant sort? Là aussi, il pourrait y avoir un avantage du côté de Seattle. Par contre, je reviens au fait que ce sont des matchs joués à Toronto. T'as le dernier tour au bâton, ça ne se gère pas toujours de la même façon. Donc, je pense qu'il y a des éléments comme ça là, qui peuvent pencher du côté de Toronto à ce niveau-là.
Remarque, ça s'était joué à Seattle. Probablement que les Blue Jays se seraient sentis chez eux aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Marc, juste pour terminer avec les Blue Jays de Toronto, si je me reporte il y a quelques mois, Alejandro Kirk était le receveur partant. Deuxième but, c'était Espinal. Là, on est rendu là. Est-ce qu'on y va avec Jansen et Merrifield?
Bien, on va utiliser, d'après moi, Kirk comme frappeur de choix. Là, il n'y a plus question qu'on repose Vlad ou Springer ou Hernandez. Ouais. Les gars vont jouer sur le terrain. Moi, je pense que Jansen est un très bon receveur défensif aussi. Peut donner un petit coup de main en attaque. Exactement. Et aucun doute que Merrifield va être au deuxième. J'aime beaucoup Espinal en défense. Tu parlais d'inconstance tantôt. Ça a été un très bon début de saison. Ça a été plus difficile en fin de saison avant sa blessure pour Espinal. Merrifield, au contraire, semble avoir retrouvé son synchronisme, beaucoup d'énergie. Il amène un peu d'expérience. Et aussi, tu sais, je parle d'expérience, je termine là-dessus, là. Mais ce que George Springer a vécu en série avec les Astros, de tenter d'apporter cette dimension-là avec ces jeunes joueurs-là, qui ont faim. Les deux équipes ont très faim, là. Ça fait 21 ans que les Mariners n'ont pas participé aux séries. Là. Ils ne veulent pas arrêter leur coup, eux, non plus. Donc, ça va être relevé, ça va être le fun. Bien de voir comment tout ça va se dérouler, ouais. Mais je vais y aller du côté de Toronto pour cette série-là.
Encore, est-ce que tu te mouilles combien de matchs?
Ben, écoute, moi, idéalement, je pense que si les Jays doivent l'emporter, c'est en deux. Parce que je ne sais pas si ça va en trois, ça me chatouillerait un peu que ça aille côté de Seattle. Fait que je vais y aller en deux du côté de Toronto. Et pas parce que les Mariners n'ont pas une bonne équipe. Là, ça n'a rien à voir. C'est simplement que si on est capable de marquer suffisamment de points dans les deux premiers matchs. Parce que si ça s'étire en trois, là, je commence à avoir des doutes.
Bon, les nostalgiques du baseball vont peut-être aimer la série entre les Rays de Tampa et les Guardians de Cleveland. Toi, chez Marc, tu as très, très hâte de cette série-là. Les deux premiers matchs vont se jouer à midi, donc prenez votre lunch avec nous. Les deux équipes se sont rencontrées au cours de la dernière semaine. J'ai l'impression, Marc, que c'est le genre de match auquel on va assister. C'était des matchs serrés, ça s'est décidé à pas grand-chose, pas beaucoup de points. Puis les Rays vont utiliser leur personnel de lanceur selon ce que le livre leur dit, tout en courant sur des sentiers. On a vu des Guardians de Cleveland tout le long de la saison, de la façon qu'ils ont évolué. Et tu sais, je parlais dans notre dernier match, Will Brennan, moi je pense qu'ils n'ont pas le choix de le garder pour les séries.
Ben oui, ça, c'est un facteur qu'on n'a pas parlé dans l'autre série, mais effectivement, les décisions, parce que là, on revient à 26 joueurs dans une formation. Tu n'as pas besoin d'une tonne de partants, une série de 2-3. Est-ce que tu en enlèves? Est-ce que tu mets? Bon, il va y avoir des décisions. Mais tu fais bien de mentionner que ça va être une série fort excitante. Pourquoi? Ben parce que ce sont deux équipes qui carburent à générer des points autrement que la longue balle. C'est à peu près ça, là. C'est que des frappés courts, des amortis, on va en voir dans cette série-là. Convaincu, très bon en défense des deux côtés, de bons athlètes, deux bons gérants également qui ont prouvé qu'ils sont capables de sortir des lapins de leur chapeau. Moi, je l'anticipe beaucoup cette série-là qui va être vraiment, vraiment intéressante en termes baseball. Si vous aimez beaucoup le baseball, la stratégie, est-ce qu'on court ou on court pas? Il va y en avoir probablement des circuits là, dans cette série-là, mais c'est pas comme ça qu'on va carburer. Moi, j'ai bien hâte de voir. Je pense que Cleveland, qui a eu un bon mois de septembre, je sais que Cleveland n'a pas eu la meilleure fiche contre des équipes qui ont des fiches supérieures à 500, mais le dernier droit m'a prouvé qu'ils sont ailleurs. Ailleurs. Et le fait que les Rays n'ont pas bien joué, ils ont perdu quoi? Alors, 4 ou 5 derniers matchs de la saison régulière, là, tu vas me dire, bon, la dernière semaine, t'en tiens pas compte. C'est vrai qu'on n'en fera pas nécessairement une grande importance, mais j'ai quand même l'impression, moi, Alain, que Cleveland va venir à bout. On n'a pas senti les Rays. Tu étais parlé d'inconstance des Blue Jays. Les Rays aussi, ça a été, là, tantôt ça va bien, tantôt ça va moins bien. Je vais y aller, moi, avec Cleveland dans cette série-là.
Oui. Écoute, le point que tu as emporté sur Cleveland, moi, ça me laisse songeur encore. On a joué de loin le moins de matchs contre les équipes qui jouent pour plus de 500. Tu comprends, bon, dans la propre section, il y en avait plusieurs. Vous allez me dire, mais les autres équipes, c'est que Kansas City, par exemple, ne joue pas contre Kansas City. Donc, tu sais, c'est un 19 matchs de différence. C'est de la simple mathématique, là. Mais j'aime beaucoup ce que Cleveland a fait, effectivement, en fin de saison. On a éliminé par soi-même les White Sox et les Twins du Minnesota. Bon, c'est ça qui m'a impressionné. Du côté des Guardians de Cleveland, les gros lanceurs semblent être revenus. Plazac, Civale sont revenus, même si on va y aller avec Quantrill et McKenzie en début. Et je ne serais pas surpris que le troisième soit Ashby, Aaron Ashby, qui a beaucoup d'étoffe. J'ai hâte de voir comment on va jumeler ça. Et probablement qu'on a le meilleur duo de fin de match présentant avec Emmanuel Classé et James Karinchak. Donc, le fameux espace entre le partant et ton releveur de huitième manche, c'est impossible qu'on amène Karinchak en septième, ceci étant dit, là, dans une série comme celle-là, 2-3. Mais moi, ce que j'aime pas du côté des Rays, il y a peut-être trop de trous à l'attaque. Siri, Walls, ils vont attraper la balle, là. Mais écoute, il va peut-être manquer de bâton un petit peu, là, cette profondeur-là. Là, même si, est-ce que ça va être compensé par l'ajout de manches de la part de Tanner Glasnow? Parce que c'est pas compliqué, là, Marc. On va gérer les manches à partir du premier match. C'est pas compliqué. On a 18 manches à régler. Multiplie ça par 3, c'est 54 retraits. On va en donner combien à Tanner Glasnow là-dedans? Et c'est pas négligeable, là, son retour au jeu. Lui, moi, je m'attends à ce qu'il lance 4 ou 5 manches pendant cette série-là. Puis c'est des grosses, grosses manches, là, compte tenu des nombreux blessés qu'on a eus chez les Rays de Tampa Bay. Écoute, Ceci
moi,
étant
moi, moi, je trouve, moi, je trouve que c'est beaucoup demandé à un gars qui n'a pas lancé de l'année, là, qui arrive à peine, qui a eu un séjour, en fait, un départ au niveau des ligues mineures avant qu'on l'amène dans les ligues majeures. Je ne suis pas certain, moi, de son impact dans cette série-là. Je le souhaite, c'est un lanceur que j'aime beaucoup, mais moi, je pense de ton côté, Lancers, que je ne vois pas comment l'attaque des Rays va être en mesure là, d'en faire suffisamment là, pour contre les lanceurs des Guardians.
Oui, par contre, tu parlais d'expérience tantôt, il y en a un chez les Rays qui a été pas pire il y a 2 ans pendant des séries. Est-ce qu'il va être capable de réaliser des miracles de cette ampleur? J'en doute. Écoute, je vais me mouiller tout de suite. Je vais avec Cleveland en raison de ce qu'ils ont montré au mois de septembre quand je parlais des moments importants. Là, regarde, ils ont traversé les Twins et les White Sox au moment où ça comptait le plus. J'y vais avec Cleveland. Ça pourrait être une série qui va aller en 3.
C'est ce que je pense aussi. Moi, je pense que ça va être tellement serré que peut-être un match va aller du côté de Tampa Bay. Mais moi aussi, je favorise Cleveland en 3.
Bon, c'est fait pour la Ligue américaine, Ligue nationale maintenant. La série la plus relevée, des 4, je pense, on va être les Mets. Peut-être pas des 4, parce que Seattle, Toronto, est quand même intéressante. New York, c'est-à-dire San Diego. Marc, je ne dis pas que je vais limiter ça, mais je pense que ça va être un duel Lindor-Alonso, Machado-Soto. Je sais qu'il y a d'autres joueurs autour, mais je pense que ces 4 joueurs-là vont peut-être déterminer la suite des choses pour chacune des 2 équipes. Puis moi, bien franchement, Marc, j'ai dormi en me revirant sur un côté et de l'autre pour savoir qui était pour gagner. Puis j'ai dit, hier, je penchais vers San Diego. Puis, tu sais, la fameuse théorie, ta meilleure idée, peut-être la meilleure. Ben, je vais y aller avec San Diego en me disant que ça se peut que celle-là, je l'échappe. San Diego en 3.
Bon, alors là, ce que tu me dis, c'est qu'on va battre DeGrom, Scherzer, au moins un des deux là, va être battu dans cette série-là. C'est ce que... Parce que moi aussi, là, moi, j'ai regardé même la fiche des Padres. Écoute, j'ai même la fiche des Padres est excellente, même à l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui vont à l'avantage des Padres, je suis d'accord avec toi. Mm-hmm. Mais aussitôt que tu t'en vas, OK, mais... T'as DeGrom et t'as Max Scherzer. Ouais. Je ne sais pas, les gars sont en mission. Ils ont enfin, les Mets sont en série. Je sais qu'ils ont échappé la première place, en fait. Enfin, ils l'ont échappé. Je pense simplement, moi, que les Braves l'ont gagné parce qu'on n'a pas joué de la mauvaise balle tant que ça du côté des Mets. Mm-hmm. Ça n'a pas été là, vraiment une chute là, drastique au classement. Moi, je pense que les Mets vont en faire suffisamment, vont trouver le moyen. On a quand même... Alonso qui est une machine à produire des points, Lindor est à son meilleur, tu as le champion frappeur de la Ligue nationale, McNeil, qui a frappé 326 cette saison, Escobar connaît le mois de septembre, incroyable, donc tu as de la profondeur en attaque. Je sais que Machado est là, puis je sais que Juan Soto est là, Darvish est capable d'endormir une attaque, Musgrove est capable de le faire, mais je suis pas capable de m'empêcher de dire que DeGrom et Scherzer sont en mission avec les Mets. Puis ces deux lanceurs-là vont nous offrir 2 sorties, là, selon moi, là, exceptionnelles, qui vont faire en sorte que les Mets vont l'emporter en 3. Je vais donner peut-être... on va peut-être en gagner une, mais je ne suis pas certain qu'on va en gagner 3. C'est-à-dire, je ne suis pas certain qu'on va gagner 2 matchs consécutifs là, du côté des Mets, mais... Ouais. Juste pour donner un peu le bénéfice. Mais je serais tenté, par contre, d'aller mettre en 2.
bon, écoute, ce serait logique. Puis avec ces 2 gars-là au monticule, là, regarde, cette prédiction-là serait très, très bonne. La question que je vais te poser par rapport aux 2 duos dont j'ai parlé tantôt, c'est que Soto a cette expérience-là. Rappelle-toi quand Washington avait gagné la Série mondiale. L'attaque là, chez les Nationals, on a carburé à 2 joueurs, hein? Soto et Anthony Rendon. C'est eux autres qui ont transporté cette équipe-là avec une utilisation des lanceurs là, qui leur a permis d'être capable d'avoir raison des Astros de Houston. Écoute, Machado, là, on n'en parle pas souvent, il joue à San Diego. Pour être sur la liste pour un des joueurs par excellence de la Ligue nationale cette année, c'est un des meilleurs gars au 3e but, sinon le meilleur. Il y a Arenado qui est très bon, et Machado pas très très loin derrière. Puis Soto, regarde, les 2 derniers mois, ça a été super, mais lui, là, il s'en vient, là, regarde, je vais me rattraper là, avec les Padres. C'est pour ça qu'on l'a acquis, d'ailleurs. C'est pas pour produire au cours des 2 derniers mois.
Absolument. Absolument. Mais je pense en prend quand même plus que ça, Alain. Je pense que pour battre Scherzer pour battre DeGrom, c'est pas juste deux gars qui vont le faire. Sur une série 4-7, là, on pourrait jaser d'autrement, tu sais, parce que là, tu vas avoir. Là, on va tester, les, comme on l'a mentionné, les, la profondeur des équipes. Mais lorsque tu as besoin de. Tu sais, une courte série, je donnerais plus avantage, moi, aux lanceurs qu'aux frappeurs à ce niveau-là, là, compte tenu de la qualité, évidemment, des lanceurs là, qui sont en place. Mais. Tu as raison de mentionner que, bon, les Nationals avaient remporté la Série mondiale. Bon, Soto avait été très bon, tu l'as dit. Randon avait été très bon. D'autres aussi avaient connu de grosses séries. Donc, mais écoute, c'est pas fou. J'ai regardé, tu sais, les Padres, on offre quelque chose de bien, bien fun. Bob Melvin qui arrive cette année, mais je vois juste pas comment on peut traverser dans cette courte série-là. T'sais, mon message va peut-être être différent si lorsque ce sera une série 3-5 ou 4-7, mais dans un 2-3 avec ces deux lanceurs-là, c'est bon.
Oui, écoute, comme je t'ai dit, je ne dis pas que j'ai agonisé, mais disons que je me suis arrêté pas mal longtemps, puis la réflexion me suis fait, ben écoute, je penchais vers les Padres hier, continuons sur cette lancée, puis on verra ce qui va arriver. L'autre série, Ligue nationale, Phillies contre les Cards de Saint-Louis. Bien, franchement, Marc, je vais te laisser parler en premier. C'est une série qui pourrait réserver des surprises, j'ai l'impression.
Écoute, c'est sûr que dans mes choix, il faut toujours prendre une série. Ben, pas toujours, c'est pas vrai. Mais c'est souvent, il y a une série qui surprend. Il y a une équipe qui va surprendre une autre. C'est vrai que c'est tentant de penser que Zach Wheeler, que Nola pourrait... C'est mal faire paraître l'attaque des Cards, puis là, soudainement, on se retrouve dans une situation où les Phillies peuvent remporter. Mais tu sais, tu as parlé d'inconstance tantôt du côté des Blue Jays de Toronto. Je regarde Bryce Harper, depuis son retour, c'est seulement 3 coups de circuit et les 3 au champ posé. Pas capable de tirer la balle en ce moment, c'est pas capable. C'est beaucoup plus difficile dans son cas. Si Bryce Harper avait été en parfaite santé, j'aime pas la défense des Phillies. Ça a été un problème en saison. Ça possiblement pourrait être un problème en série. Tandis que du côté des Cards, c'est quand même 93 victoires. Hein. C'est une victoire de plus que les Blue Jays de Toronto, par exemple. Il y a quelque chose là. Montgomery va faire une grande différence. Il va arriver dans cette série-là. C'est sûr qu'il va lancer. Je ne sais pas. Moi, Goldschmidt est en mission. Molina va terminer en beauté. Même pour eux, ça pourrait jouer un rôle. Je vais utiliser ton argument là, des Jays, là, mais moi, l'inconstance des Phillies et surtout le fait qu'ils sont capables d'échapper à un jeu ou une situation où soudainement, les Cards pourraient en profiter à ce niveau-là. T'sais, moi, si je me fie strictement là, à la qualité du baseball qui est joué, j'ai pas le choix d'y aller avec les Cards.
Oui. Autrement dit, écoute, c'est une question que je te pose, puis quand je vois les Cards et de la façon dont on a. Et l'équipe qu'on a devant nous, je ne sais pas si tu te rappelles de la série mondiale de 2006, les Cards contre les Tigers, où les Tigers avaient été absolument horribles en défense. Les Cards en avaient largement profité. Est-ce que c'est une série qui pourrait ressembler à ça?
Écoute, la comparaison n'est pas vilaine du tout. Je ne le souhaite pas pour les Phillies, mais c'est un scénario qui pourrait se répéter. Bon, on regarde la qualité qu'on a à Saint-Louis là, en termes de joueurs en défense. On est très solide. C'est une bonne équipe. Est-ce que c'est parfait au monticule comme lanceur partant? Pas du tout. Mais le reste va combler, selon moi, peut-être ces quelques lacunes qu'on pourrait retrouver au monticule. Comme je l'ai dit, si Bryce Harper était en parfaite santé, je considérerais des choses, mais en ce moment, je pense du côté de Saint-Louis.
Bon, de mon côté, avec les Phillies, en raison des deux premiers noms que tu as mentionnés au début de ton intervention, Nola, de même que Wheeler. Ils n'ont pas de partant de cette qualité-là des Cards de Saint-Louis. Et c'est ça qui m'inquiète. Arenado, on dit qu'il va être prêt pour la série contre les Phillies. On sait qu'il a manqué quelques matchs dans la dernière semaine. c'est un, quand même un point d'interrogation. Il y a plusieurs jeunes avec les Cards de Saint-Louis. Là aussi, j'ai hâte de voir comment on pourrait réagir de ce côté-là. Il y a des gars qui ont eu des bonnes fins de saison. Je pense à Dickerson, qui a probablement sauvé son emploi, lui, avec une très bonne prestation dans le dernier droit, les dernières semaines. Mais je pense que Nola et Wheeler, la coche qu'ils ont par au-dessus des partants des Cards de Saint-Louis va faire la différence. J'ai bien l'impression. On a quand même stabilisé la relève. On a des bras qui ont de l'allure. Là. On a Anthony Dominguez et David Robertson avec lesquels on peut terminer des matchs. Moi, je trouve ça intéressant de la part des Phillies. Je ne me souviens pas la dernière fois là, où on peut arriver avec un minimum de degré de confiance. Je ne te dis pas que c'est parfait, là, Marc, là, mais on le sait avec les Phillies en relève, c'était probablement des pires équipes et sur une très longue période. Là, montant à 2018 là, pour avoir... Surtout que tu portes le P des Phillies, là, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit en relève. Mais on a ce minimum de stabilité-là. Puis Nola est capable d'aller loin dans ses matchs. Wheeler, il ne va peut-être pas aussi loin. Donc, moi, je pense qu'on est capable.
Ce que tu me dis, là, c'est que tu ne prends pas les Mets parce qu'on est capable de battre Scherzer et DeGrom, mais ouais. Tu vas prendre pour les Phillies parce que tu penses que Wheeler et Nola vont passer à travers les Cards. C'est ça que tu me dis, là.
Écoute, je pense que la différence entre Nola et Wheeler, et prends n'importe qui que tu peux prendre de chez les Cards comme des deux premiers partants, là, la différence est plus grande que Scherzer, DeGrom et Darvish Musgrove, par exemple.
Mais là, il faut que tu regardes l'attaque de chacun là, par la suite. Il faut que tu regardes. Parce que là, tu as quand même Goldschmidt puis tu as quand même Arenado qui ont été dominants. Edmund a été dominant cette année. Il ne faut pas le négliger. Alors, il y a des choses intéressantes, mais je comprends très bien. Tu t'en vas avec ça. Je suis d'accord. Moi, Wheeler et Nola, je les tu sais, ça me fait douter un peu parfois mon choix, là. Mais encore une fois, c'est parce que le reste des Phillies, tu sais, outre ça, là, outre le partant, là, tu vas me dire qu'il y a une importance, évidemment, dans une courte série, mais outre le partant, tu sais, tu as parlé de Robertson, je trouve pas que c'est comme si rassurant que ça de l'avoir en fin de match. Il y a la défense qui devient. Qui pourrait devenir un problème. Alors, tu sais, il y a pour bien des raisons, mais c'est la beauté. C'est la beauté d'analyser. Puis là, on va arriver en série, puis ça va être complètement l'inverse que ce qu'on a pu penser pendant une demi-heure, parce qu'il s'est passé d'autres éléments impondérables.
Oui. Donc, mon choix, les Phillies, puis je pense que ça peut se régler en deux en raison de ces deux partants-là. Hein. Ouais. Trois matchs, le troisième partant des Phillies, je ne suis pas sûr, mais des deux premiers, j'ai confiance qu'ils vont être capables d'avoir le meilleur sur les Cards de Saint-Louis. Donc, en résumé, Marc, donc tu y vas avec les Blue Jays, j'y vais avec Seattle, on y va avec Cleveland tous les deux. Mets, Padres, ben dans la nationale, on a des différences de ce côté-là. Donc, il y a une seule série, si je résume bien, où on est en accord. Ça va être intéressant de se remettre ça sur le nez une fois que ces séries-là vont être terminées. Marc, je vais terminer en soulignant certaines parties de la saison 2022. Aaron Judge, il a battu le record finalement de Roger Maris. Ça s'est fait au Texas. Félicitations. Puis, je pense, on retient Judge, mais Otani qui a été capable d'aller même presque au-delà de ce qu'il a réalisé au cours de la saison 2021. C'est remarquable ce que ces deux joueurs-là ont fait au cours de la saison.
Oui, bien, vraiment, tu fais bien de le souligner. Si on parle de joueur le plus utile, je pense qu'il n'y a pas de doute que Aaron Judge a été le plus utile à son équipe, compte tenu du fait que les Yankees ont connu une saison remarquable. On va me dire, un joueur ne peut pas faire une équipe à lui seul, mais si Judge n'est pas là, pas certain que les Yankees terminent au premier rang de la division Ouest. Là. Je pense que ça, c'est assez clair. Écoute, à flirter avec la triple couronne. J'aimerais quand même qu'ils jouent le dernier match, Alain. Pourquoi? Parce que là, les Yankees sont en congé jusqu'à mardi prochain. Tu sais, s'ils avaient joué et avaient frappé de trois coups sûrs, ils auraient peut-être pu se rapprocher, évidemment, de Arias, qui a gagné finalement le titre de champion frappeur avec une moyenne de 315. Mais ça reste exceptionnel pour Aaron Judge, tout près de la triple couronne, 62 coups de circuit, record des Yankees, record de la Ligue américaine. Mais Shohei Ohtani, on n'en parle pas assez, puis je sais qu'il joue pour les Angels, puis les Angels, ça va tout croche. Mais Alain, il a été admissible donc pour les statistiques des deux côtés, c'est-à-dire lanceur et frappeur. Il a été meilleur que l'année passée. Il est dans le top 5 pratiquement des deux côtés. Ça vaut combien, un gars comme ça? Là? Je sais qu'on aura le temps de discuter durant l'hiver là, des fameux contrats, là, mais je pense que Judge. Mais le meilleur joueur actuellement sur un terrain de baseball, c'est Shohei Ohtani. Je m'excuse, mais
oui, quand il lance.
Lorsqu'il lance, il est dominant. Lorsqu'il frappe, il est dominant. Alors, c'est aussi simple que ça.
Bon, dernière chose, Marc. Écoute, c'est arrivé assez tôt après la fin de la saison. Il y a un autre gérant qui a été congédié, c'est Mike Mattini. C'était presque prévisible. Mattini, je ne suis pas sûr qu'on l'a senti vraiment confortable. A passé sa carrière avec les Cards de Saint-Louis. Juste de sortir d'une organisation avec laquelle tu as passé tout ton temps, c'est pas facile. Puis là, on avait évidemment fait le ménage au deuxième étage. Fait que Mattini n'est pas l'homme de celui qui va prendre en charge le deuxième étage des Royals de Kansas City. Pas de grosse surprise.
Je vais dire une chose, il y a des postes à combler durant l'hiver pour les postes de gérant. Là. Il y en a pas mal qui se libèrent. Il y a des postes au deuxième étage. J'ai l'impression qu'il va y avoir... J'espère juste qu'on va faire confiance à des jeunes. Tu sais, je regarde ce que John Schneider fait avec les Blue Jays. Je ne dis pas que... Bon, parce qu'il est encore par intérim, mais tu sais, il a amené une belle dimension. Il avait grandi avec dans les ligues mineures avec un paquet des Bichette, les Biggio, les Guerrero. Est-ce que c'est une avenue intéressante pour les organisations? Moi j'aime ça. J'aime ce genre de... Alors, est-ce qu'on va y aller de ce côté-là? J'espère juste qu'on ne changera pas de chaise à gauche et à droite. Est-ce que Matt Ingley va se retrouver avec les Royals, par exemple, ou Mattini avec les Marlins? Bon, c'est correct. Ils ont eu leur chance. Ils ont fait du travail exceptionnel. Mais peut-être d'y aller aussi avec... Bon, puis tu le sais, là, on ne fera pas le débat du gérant et du rôle du gérant là, qui a beaucoup changé au fil du temps. Est-ce que Joe Maddon va revenir? Bon, en tout cas, toujours est-il que c'est pas surprenant dans le cas de Mike Mattini.
Oui, on aura l'occasion, effectivement, une fois que la saison sera terminée, de se pencher sur ce qu'on recherche de la part d'un gérant dans le baseball d'aujourd'hui. Là. Un des aspects, Marc, écoute, est-ce qu'on veut quelqu'un qui s'exprimait devant les médias? À la rigueur, là, on peut presque se poser la question si c'est pas ça qu'on va rechercher éventuellement. Mais écoute, Marc, ça va être plaisant. On va se revoir à l'aube de la prochaine série. Il s'agit de savoir qui va affronter les quatre équipes qui ont des laissés-passer, en l'occurrence les Yankees, les Astros, les Dodgers et les Braves. Bon, ça promet pour la prochaine série. On souhaite du bon baseball, donc on vous rappelle que vendredi, on sera là à midi et à 16h. Ce sera les mêmes heures pour samedi avec les mêmes équipes, c'est-à-dire Cleveland, les Rays à midi, les Blue Jays contre les Mariners de Seattle à compter de 16h. Pour dimanche, on va entendre évidemment savoir qui va se présenter là. On n'a pas les heures définitives. On a des bonnes chances ce soir en début de journée pour les deux matchs de la Ligue américaine. S'il y a jamais, il y a deux matchs à ce moment-là. Ce seraient des matchs décisifs qui seraient disputés à Toronto et à Cleveland. Donc, bon baseball, ça commence vendredi pour les séries. On souhaite vous avoir avec nous. Portez-vous bien d'ici là. Vendredi midi, le premier match. À bientôt.